7h14, bon lundi matin, on est le 27 mai. Vous êtes bien branchés à Boulevard 102.1. Cette émission s'appelle « Reg Against le matin ». Reg, Jeff et Louis-Mathieu en remplacement de Max cette semaine avec vous jusqu'à 10h. Bon début de semaine, merci de la commencer avec nous. C'est un immense plaisir et privilège de vous savoir là. 418-971-1021 si vous voulez nous envoyer un petit texto, si vous voulez nous lâcher un petit coup de fil ici en studio. Ça se fait via le 418-780-1021. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est un petit peu partout. Et si vous voulez venir voir ce qui se passe en studio, twitch.tv, BLVD, la petite barre par en bas, FM. Téléchargez l'application. Bien important. Saison estivale, saison des vacances aussi. Donc, vous allez avoir la belle équipe de Reg Against le matin de Boulevard 102.1 avec vous dans tous vos déplacements. Lui, Mathieu, on va se faire un petit tour des nouvelles dans les prochaines minutes. Mais garde
oui,
ça parce
parfait.
Qu'on a au bout du fil en ce moment le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui est là avec nous. Puis on va y jaser ce matin. Salut, Éric. Oh. Oh. On va.
Pourtant, Éric était bien là.
Et voilà, il doit être là.
Et voilà.
Salut, Éric.
Ben, excuse-moi, ça a raccroché.
Ben voyons, il n'y a pas de problème. Lundi matin pour tout le monde, hein? Hey, Éric, très heureux de vous avoir avec nous ce matin à Reg Against le matin. Merci pour ton temps. Me semble qu'il y a une liste de priorités puis de choses au Québec. Je veux pas dire, je veux pas être négatif en ce lundi matin, mais mettons que ça peut sembler problématique. L'éducation, le transport, la santé, le logement. Puis à matin, Éric, on va jaser entre autres de logement. Le projet de loi 65 pour protéger les aînés de 65 ans et plus d'éviction de logement, justement. Chez vous, au Parti conservateur du Québec, vous n'êtes pas nécessairement pour ce projet-là. Pourquoi?
Bien, d'abord, on est le seul parti, en fait, hein, qui s'est opposé à ça. Puis, bon, d'ailleurs, c'est un projet de loi, là, c'est très exceptionnel. Là, ça va être adopté en l'espace de 9 jours parce qu'ils se sont tous mis d'accord. C'est un projet de loi qui avait été présenté par Québec solidaire avec la CAQ qui était contre l'année dernière. Puis là, le virement de situation des derniers jours, la ministre change d'idée puis décide de déposer le projet de loi de Québec solidaire. Pourquoi on est contre? Bien, parce que, oui, il y a une crise du logement au Québec actuellement. Là, c'est vraiment problématique, là. À peu près tout le monde est conscient qu'il manque de logements au Québec. Il faut construire, il faut accélérer la construction de nouveaux logements. Il faut contrôler notre immigration hors de contrôle, particulièrement pour les immigrants temporaires. Mais cela étant dit, là, on présente un projet de loi qui va exactement à sens contraire. Tout le monde est d'accord qu'il faut que les aînés puissent avoir des logements puis qu'ils puissent avoir des logements à meilleur prix. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Maintenant, comment on peut faire ça? Est-ce que c'est en privant les propriétaires d'immeubles de leurs droits de propriété? Moi, je pense pas. Puis là, je veux juste expliquer, là, il y a 275 000 propriétaires d'immeubles à logement au Québec.
Ouais.
88 % de ces gens-là, là, c'est moins de 6 logements qu'ils ont. Puis ça, c'est le monsieur là, qui a un triplex, puis qui a économisé toute sa vie, puis qui vit au rez-de-chaussée, puis qui a un voisin en dessous, puis un locataire en dessous, puis un locataire au-dessus. Là. Puis lui, il a eu un comportement exemplaire. Puis là, lui, on va lui dire, là, pendant 3 ans, on va te mettre un moratoire. Tu n'as plus le droit de rénover ou de fusionner ou de diviser des appartements ou de changer des vocations. Et parallèlement à ça, si jamais tu loues à quelqu'un de 65 ans et plus, bien, pour le mettre dehors, bonne chance.
Ouais.
Donc là, on est en train de dire à ces gens-là, si quand vous prenez des gens dans vos appartements, parce que c'est ça qui va arriver comme effet pervers, là, assurez-vous de prendre la personne la plus jeune possible, parce que si vous prenez un aîné, c'est à vos risques et périls. Fait qu'on crée de la discrimination contre les personnes âgées dans l'occasion des logements. Et en plus de ça, on envoie le message aux gens qui veulent investir, bien, investissez pas dans l'immobilier au Québec, parce que le gouvernement essaie de tout contrôler, puis vous serez pas propriétaire des lieux que vous allez acheter. Fait que je trouve que c'est un très mauvais projet de loi. Même si les intentions sont bonnes, le résultat risque d'être catastrophique.
Bien, justement, l'initiative semble très noble quand même, mais je veux pas faire de mauvais jeu de mots, Éric, mais c'est-tu juste pelleter le problème dans le cours de l'autre, donc pelleter le problème dans le cours des propriétaires?
Ben oui, c'est de bien paraître. Ils veulent parce qu'ils sont à court d'imagination puis de solutions pour régler la crise du logement. Fait que là, ils veulent bien paraître. La ministre, d'ailleurs, elle a très mal paru parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais elle a fait une annonce là, sur le logement social. Tu sais, c'est des logements des gens qui n'ont pas une scène. Là.
Avec
elle
les beaux souliers.
Là avec des souliers Christian Louis Boutin à 1200 piastres, des souliers. Puis là, évidemment, elle s'est fait attaquer de tout bord, de tout côté. Mais en même temps, je veux dire, la fille, elle a gagné honnêtement son argent. Là. Elle avait déjà de l'argent avant d'entrer en politique. Puis elle a le droit de s'acheter les souliers le prix qu'elle veut. Là. Mais malheureusement, c'est la perception des fois en politique, c'est plus important que la réalité. Puis c'est ça qui me dérange dans ce projet de loi-là, de façon générale. Là. C'est que j'ai l'impression qu'on veut attaquer les gens qui ont de l'argent. Tu sais, on veut comme dire, ben là, si vous avez de l'argent, là, c'est comme, je sais pas, c'est de la jalousie ou c'est le fait qu'on pense que parce que le monde a de l'argent, ils l'ont comme volé ou c'est pas du monde honnête, là. Ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup de voir, parce qu'on est le seul endroit en Amérique du Nord là, qui va adopter ce genre de législation-là pour empêcher les propriétaires d'immeubles de faire ce qu'ils veulent avec leurs biens. Et je trouve que ça va aggraver la crise du logement qui est déjà là, et ça ne réglera aucun des problèmes à l'heure actuelle. Mais ça va faire bien paraître les politiciens. Puis là, la ministre qui était critiquée par tous les médias, par toutes les autres parties d'opposition, mais là, elle est louangée depuis une semaine parce qu'elle a déposé un projet de loi pour bien paraître.
Éric, ça fait longtemps que tu es dans la joute politique.
Oui.
J'ai vu ça apparaître. C'était un petit cadeau à Gabriel Nadeau-Dubois avant le fameux congrès et la déclaration du Saguenay. Penses-tu qu'il y a justement une stratégie politique derrière ça? Parce que c'est bon pour la CAQ que Québec solidaire reste fort. Ça amène pas des gens à voter pour le PQ.
C'est sûr que c'était sauvons Gabriel, là. C'était sauvons GND. La CAQ a toujours misé là-dessus, même pendant les élections, rappelez-vous. Là, François Legault disait que son vrai adversaire, c'était Gabriel Nadeau-Dubois. Ils ont toujours voulu gonfler Québec solidaire pour s'assurer de diviser les partis d'opposition. Ça, c'est vu comme le monde. Et je ne dis pas qu'ils ont fait ça juste pour ça, mais disons que le timing était pour ça. D'après moi, ils savaient depuis quelques semaines qu'ils voulaient faire quelque chose pour le logement, puis qu'ils voulaient bien paraître et adopter le projet de loi de Québec solidaire. Puis ils se sont dit, on va annoncer ça juste à la veille du congrès pour montrer que Gabriel, il a du pouvoir, puis qu'il est fort, puis il est bon, puis c'est le meilleur dans l'opposition. Il y a une alliance à ce niveau-là entre Québec solidaire et la CAQ, là. Mais sauf que celle-là, je pense que ça paraît un petit peu trop.
Oui, c'était mal caché, celle-là. Là.
C'est pas très subtil. Parce que, tu sais, on se le dit, là, Gabriel Nadeau-Dubois, il est dans le trouble. Là. Il a perdu le cœur de son électorat en l'espace d'un mois ou deux. Puis même si en fin de semaine, il a gagné sur le vote, il a gagné à court terme, mais à long terme, il va perdre du monde. Là. La réalité, c'est que les prochains sondages vont être encore plus catastrophiques. Puis à l'interne, ça va continuer à brasser encore plus. Là. Fait que oui, il a gagné de pouvoir rester là, mais c'est pas une grosse victoire dans la mesure où il va gérer juste plus de crises dans le futur. Là.
On jase avec Éric Duhaime ce matin, chef du Parti conservateur du Québec. Éric, on le sait que le logement, c'est un immense problème au Québec, à Québec. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la situation?
Il n'y a pas 50 solutions. Là. Il faut construire des logements. La seule façon de réduire la pression qu'on a actuellement, c'est de diminuer les coûts, c'est de s'assurer qu'il y a plus d'offres. On fera pas les règles là, d'une économie capitaliste, là, c'est l'offre et la demande. Il n'y a pas suffisamment de logements. On a trop de barrières quand on construit. Il faut qu'on libéralise, ça veut dire enlever des lois et des barrières. Par exemple, accélérer les permis de construction. Il y a des villes, le Québec est un bel exemple, là, où on met des bâtons dans les roues dans les investisseurs immobiliers qui veulent construire des nouveaux logements. C'est très, très long. En fin de semaine, j'ai été à Drummondville. Là. Je parlais à la mairesse. Eux autres, ils ont réussi à réduire les délais, dans certains cas, de 6 mois, 1 an. À l'époque, là, ça prenait 6 mois à 1 an avoir un permis pour pouvoir construire. Là, ils sont en train d'essayer de faire ça en 2 à 3 semaines.
Wow!
Et ce genre d'initiative va falloir prendre à grandeur du Québec. Là. Fait que ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est comme peut-être de déréglementer l'industrie de la construction pour le résidentiel. Déjà, le gouvernement a reconnu qu'il y avait trop de corps de métier, puis que, tu sais, c'est pas normal. Dans une maison, t'as pas besoin d'avoir 25 personnes de 25 métiers différents. Là. Ils ont commencé à fusionner, mais il faut voir aller beaucoup plus loin. Faire comme l'Ontario, par exemple, eux autres, c'est 5-6 métiers, qui permettent aussi aux gens qui achètent, mettons, un duplex, mais de pouvoir eux-mêmes rénover leurs affaires, puis commencer à donner du lousse à ceux et celles qui construisent parce qu'on manque de main-d'œuvre, puis le coût de la main-d'œuvre va beaucoup augmenter. Fait qu'il faut trouver une façon là, de réduire les coûts de construction si on veut accélérer le nombre de logements disponibles.
Éric, il y avait un congrès des libéraux cette fin de semaine. On a beaucoup parlé d'austérité. Puis moi, quand j'entends le mot libéral, ça me fait toujours penser au fameux post-it. Et là, est-ce qu'avec la CAQ, on est rendu à si tu as été une ancienne flamme du ministre Dubé, tu vas avoir des beaux postes? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas.
Et c'est ça, c'est quand même assez spécial hein, ce qui s'est passé. Là. juste pour ceux et celles qui n'ont pas suivi ça, là, Christian Dubé, vous avez vu qu'il a créé une agence qui s'appelle Santé Québec. Puis il a dit qu'il va donner toute la responsabilité à ces gens-là. Là, il a nommé ce qu'il a appelé sa top gun, là, la Mme Geneviève Biron, qui paye 650 000 $ par année avec auto de fonction, merci. Puis là, il a nommé un conseil d'administration. Puis le conseil d'administration, il y a 13 personnes. Normalement, c'est régi par le conseil du trésor. Il y a des règles sur combien on paye les dirigeants de sociétés d'État. La madame qui était nommée présidente de ça, Christiane Germain, des hôtels du même nom, elle devait être payée 42 000 $. Il a décidé de passer un décret au conseil des ministres. Ils ont monté son salaire à 173 000 $. Pour être présidente d'un conseil d'administration, là, c'est pas un job à temps plein. Là. Tu présides quelques réunions par année. Là.
Exactement.
Mais il a laissé les autres au même taux que ce qui prévoyait déjà le conseil du trésor, c'est-à-dire 20 000 $ par année pour les 12 autres membres. Sauf que ce qu'on apprend, c'est que Mme Germain, il a avoué qu'il la connaissait depuis 30 ans. Il a oublié de nous dire que ça avait été une de ses flammes, une ancienne flamme, donc c'est son ex. Et c'est pas la première fois, malheureusement, que le ministre Dubé est accusé de mêler ses flammes avec les interventions politiques aux frais des contribuables. C'est alors qu'il était vice-président de la Caisse de dépôt et de placement il y a déjà quand même quelques années. Là. C'était le journal qui nous avait rapporté ça en 2018. La Caisse de dépôt avait triplé son investissement dans une compagnie dont sa femme était actionnaire et administratrice.
Ouais.
Ensuite de ça, pendant la pandémie, vous vous rappelez du fameux panier bleu. Le gouvernement a injecté 4,4 millions. Monsieur Dubé est sorti publiquement pour parler comment c'était une super bonne initiative. Sauf que ce qu'il avait oublié de nous dire, c'est que sa femme était vice-présidente du panier bleu.
Une petite affaire.
Donc, ça fait trois fois. Là. D'habitude, au baseball, après trois fois, vous savez, après trois prises, vous savez ce qui arrive.
Ouais.
Moi, je pense que le ministre Dubé, là, il faut qu'il réponde à ça. Puis, ce qui me surprend le plus, il n'y a aucun des trois partis d'opposition à l'Assemblée nationale qui a questionné ça.
Oui.
Et là, qu'est-ce que M. Dubé a dit quand on l'a accusé de faire de la dénomination partisane? Il dit, ben non, j'ai nommé une ancienne ministre, une ancienne députée péquiste, Diane Lamarre, la pharmacienne, je l'ai nommée elle aussi, puis j'ai donné une job à 20 000 $ sur le conseil. Fait que je sais pas s'ils se sont tous donnés, ils ont nommé quelques amis de chaque parti sur le conseil, là. Le seul qui gueule, c'est moi, parce qu'on est le seul parti qui n'ont pas nommé nos amis, là. Mais c'est quand même assez spécial. De voir ce qui s'est passé. Moi, j'appelle ça la petite vite avant de partir en vacances. Ils nous en passent toujours des petites vites avant les vacances parce qu'ils savent que là, il commence à faire beau. Le monde est pas mal plus ses terrasses dans leur cours, en train de planter leurs fleurs. Puis on suit moins la politique. Puis on a toujours des petites vites. Et ça risque d'être une des petites vites là, avant les vacances d'été.
Ah, Éric, Jeff parlait du rassemblement des libéraux en fin de semaine.
Oui.
Le chef par intérim, Marc Tanguay, a dit que François Legault est le pire premier ministre de l'histoire. Est-ce que c'est beaucoup trop raide comme commentaire ou t'es d'accord?
Bien, moi, c'est quelque chose que j'ai dit depuis un an et demi. Je pense qu'on a le pire premier ministre du Québec. Puis je dis pas ça avec fierté parce que on est tous collectivement responsables. Moi-même, j'ai voté trois fois pour la CAQ, François Legault. Là.
Mm-hmm.
Et j'ai voté pour le pire gouvernement de l'histoire du Québec. Et puis c'est pas une attaque partisane. Il y a des faits objectifs. Jamais un gouvernement n'a empilé autant de déficits que le gouvernement de François Legault. Jamais on a eu un déficit record de 11 milliards. Ils ont accéléré la dette, l'endettement des prochaines générations comme jamais un gouvernement l'a fait dans l'histoire du Québec. Ça, c'est un fait. Ils nous avaient promis de baisser le nombre d'employés de l'État de 5 000. Ils l'ont monté de 36 500. Okay? Ça, c'est pas une attaque partisane, c'est un fait. C'est des chiffres qui parlent.
Ouais.
Après ça, ils nous avaient, nous autres, dans la région de Québec, évidemment, c'est le troisième lien, c'est devenu symbole, puis c'est ça qui a été l'élément déclencheur pour plusieurs ex-caquistes, là. Mais, je veux dire, jamais on a vu un gouvernement mentir aussi délibérément sur quelque chose d'aussi gros. Je veux dire, puis ça, c'est un petit exemple. La démocratie, un gouvernement qui nous avait promis que c'était la dernière fois qu'on votait avec le mode de scrutin qu'on a voté en 2018, qui, une fois au pouvoir, a dit qu'il y avait juste les intellectuels qui s'intéressaient au mode de scrutin puis qui ne voulaient plus rien savoir. Un gouvernement qui a mis la démocratie sur pause le plus longtemps dans l'histoire du Québec. Au niveau démocratique, ça a été le gouvernement le moins démocratique de notre histoire. Un gouvernement qui nous avait promis deux hôpitaux privés qui a renié son engagement. Un gouvernement qui nous avait dit que ça irait mieux en santé et en éducation alors que la situation s'est détériorée. Regardez juste l'état des routes, regardez l'état de vos taxes et vos impôts. Un gouvernement qui avait promis qu'il n'augmenterait pas les taxes ou les impôts, il y a encore quelques semaines, il a augmenté l'impôt sur le gain en capital pour faire passer ça de 50 à 66%. Puis je pourrais continuer la liste toute la journée, là, mais on n'a pas trop de temps. Mais je vous dis juste que c'est de loin le pire gouvernement de l'histoire du Québec.
En terminant, Éric, évidemment, il y a un rapport important qu'on attend en capitale nationale. C'est celui de la Caisse de dépôt, section infrastructure. Tu t'attends à quoi? Ça va-tu être livré la mi-juin? Puis qu'est-ce que tu t'attends que ce rapport-là va donner?
Bien, d'abord, on les a rencontrés, nous autres. Le Parti conservateur du Québec, on est allé les voir. On leur a présenté notamment un sondage scientifique de Léger Marketing en posant exactement les mêmes questions que le gouvernement avait faites avec un sondage. Il n'y avait pas de méthodologie scientifique pour le troisième lien puis pour le transport dans la région de Québec. Pour leur dire, écoutez, la population de Québec, elle veut pas du tramway, là. C'est deux tiers, un tiers. Puis c'est le contraire, elle veut un troisième lien autoroutier, deux tiers, un tiers. C'est grosso modo plus ou moins 5%, là, dépendamment de comment vous faites votre échantillon puis quelle firme de sondage vous voyez. Là. Mm-hmm. Mais il n'y a aucun sondage qui dit que le tramway, les gens le veulent, puis aucun sondage qui dit que le troisième lien, les gens le veulent pas. Là. Fait que moi, j'ai dit, écoutez, c'est bien beau là, toutes vos études là, par des fonctionnaires de la Caisse de dépôt à Montréal, là, mais à un moment donné, il va falloir que vous écoutiez celles et ceux qui vont le payer, celles et ceux qui vont utiliser ces systèmes de transport-là. Et ça, c'est notre position depuis le départ. C'est pas la position du Parti conservateur, c'est la position des gens de Québec. Et on n'attendra pas, nous, le dépôt du rapport de la Caisse de dépôt. Nous autres, dans deux semaines, on va déposer notre maquette avec notre projet de troisième lien. On va donner beaucoup plus de détails sur ce qu'on veut. Nous, c'est vraiment un pont à l'est, à la hauteur de l'île d'Orléans. Et on va sortir tous les détails là, d'ici 2-3 semaines.
Éric Duhaime est chef du Parti conservateur du Québec. Éric, merci pour ton temps ce matin.
Toujours un plaisir, les gars. Merci. Bye.
À bientôt. Salut. Au revoir. Éric Duhaime, ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas jasé avec...
Très content d'avoir jasé avec lui.
Ben, vous le savez, à Rage Against le matin, on donne la vitrine et la place et le micro aux membres des différents partis qu'on a ici au Québec. Puis on jase avec ces gens-là, puis on parle de leurs idées, leurs opinions, leurs stratégies, leurs initiatives.
Oui, puis j'aime ça avoir les deux côtés de la médaille. Moi. C'est pour ça que j'aime ça qu'on jase à tout le monde. Parce que vois-tu, quand ça a sorti le truc sur le logement, tu sais, moi, avec ma petite fibre communautaire, je me disais, hey, ben oui, il faut les protéger, ces aînés-là. 65 ans et plus, tout ça. Mais là, quand Éric a mentionné tout à l'heure, hey, la très grande majorité des propriétaires, c'est 6 logements et moins. Fait que c'est celui qui a le triplex, là, il a travaillé fort pour l'avoir. Fait qu'il ne mettra pas quelqu'un de 55 ans. Il va mettre quelqu'un de 28. Fait que ça va peut-être encore plus désavantager nos 65 ans et plus.
Ouais, ça va peut-être être tough loué là, si on a 65 ans et plus maintenant avec ça. Là.
En plein ça. Fait que j'aime ça avoir les deux côtés de la médaille parce que ça m'allume sur d'autres choses que je n'avais pas pensé en premier jeu.
Hey, on va faire un petit tour de quelques manchettes de news qu'on suit. Choisis-nous, Louis-Mathieu, 3-4 news essentielles là, qu'on suit ce matin.
Parfait. La déclaration de Saguenay de Québec solidaire qui a été adoptée. La déclaration s'est formée à travers des débats, des discussions au Conseil national de Québec solidaire. On en a conclu que le programme de QS sera mis à jour / simplifié et que GND s'estime maintenant équipé pour que son parti devienne un parti de gouvernement. Au départ, la direction du parti voulait rebâtir le programme au complet et le moderniser par le fait même, mais on a finalement choisi de simplement l'actualiser. Actualiser, c'est en fait celui qu'on avait déjà entre les mains. Le nouveau programme n'aura pas d'engagement trop spécifique et présentera 5 à 6 enjeux. Là. Ensuite, Québec poursuit son virage vers l'électrique en achetant des F-150 électriques. On parle de camionnettes qui coûtent en moyenne 90 000 $ chacune. Le ministère des Transports a aussi fait ce choix-là en achetant 56 Ford F-150 Lightning Pro. Selon le ministère des Transports, les véhicules devraient devenir rentables financièrement après un peu plus de 20 000 km par année. L'achat de ces véhicules est encouragé entre autres par la promesse du MTQ, soit d'électrifier 25 % de sa flotte de pick-up d'ici 2030 et 100 % d'ici 2040.
T'sais, c'est plaisant qu'on dise qu'on va récupérer l'argent au bout de 20 000 km. Faut juste s'assurer de la fiabilité.
Oui.
Parce que sinon, tu ne récupères pas ton argent parce que là, tu l'investis dans des modifications puis dans des réparations.
C'est le nerf de la guerre. Tout est basé là-dessus.
Fait qu'il faut juste s'assurer de la fiabilité. Puis après ça, ben, je vais comprendre le geste.
Un an après le virage vers le numérique, la SAAC subit toujours une hausse de l'achalandage. La plateforme SAAC-Click, qui a coûté près d'un demi-milliard de dollars, devait justement réduire l'achalandage dans les salles d'attente de la Société de l'assurance automobile du Québec. Et selon les chiffres du Soleil, là, le mois dernier, les centres de services de la SAAC ont accueilli 40 800 clients de plus qu'en avril 2023. L'an passé, avant SAAC-Click, l'augmentation était d'environ 22 160 clients. Une automobiliste de Donnacona s'est confiée sur son expérience avec SAAC-Click et elle explique qu'elle a dû attendre 6 mois avant d'obtenir un remboursement d'une partie de ses frais d'immatriculation étant donné qu'elle avait remisé son auto. Et dans les cinq dernières années, le pont de l'île d'Orléans a coûté 16 millions de dollars, soit 81% plus cher que les cinq années précédentes. Le ministère des Transports de la Mobilité Durable explique qu'une structure en fin de vie coûte plus cher à rénover, surtout avec le manque de main-d'œuvre qui pèse présentement. Le ministère repousse la faute aussi sur l'inflation qui ne fait qu'augmenter la facture.
On comprend mieux avec ceci pourquoi on n'a pas décidé de refaire un processus malgré le coût exorbitant de 2,7 milliards pour le nouveau pont. Il y a urgence en la matière. Là. Ça, ouais. C'est du laxisme qu'il y a eu de la part des libéraux et de la CAQ à leur arrivée qui fait en sorte qu'on est arrivé directement dans le mur et on a dit « ben là, on n'a pas le choix de procéder ».
La météo vous est présentée par l'aéroport international Jean-Lesage de Québec et ses vols directs vers Paris.
Visitez décollerdequebec.ca.
Si vous étiez debout tôt avec nous ce matin, vous avez bien profité du soleil qui est pas mal caché derrière les nuages maintenant et la pluie a commencé par endroits. On est à 13 degrés, nuageux, faibles averses de pluie, c'est ce qu'on va avoir ce matin. Pour ce qui est de cet après-midi, une faible pluie qui va tomber à 80% de probabilité de précipitation, 2 à 4 mm de pluie. 20 sera le maximum cet après-midi, 16 le minimum cette nuit et ce soir et cette nuit, ça va tomber et pas à peu près, chers amis, là, ça va être une nuit et un matin mouillé, là, 25 à 35 mm de pluie ce soir et cette nuit. Demain mardi, nuageux avec orage dispersé et un maximum de 21, on parle d'un 5 mm de pluie additionnel. Mercredi, sous les nuages aussi, nuageux avec averse, mais là, on est vraiment dans les dernières gouttes de précipitation avant le retour du soleil jeudi et qui serait avec nous jusqu'à lundi prochain.
La circulation, présentée par Marmiton Pizza 2 pour 1. La pizza de qualité pour la moitié du prix. Marmiton Pizza 2 pour 1, Pierre-Bertrand, Saint-Vallier et maintenant Sainte-Foy.
Marmiton Pizza, ça me rappelle mon adolescence à Saint-Sauveur.
Oui?
Hein, mais ça, il y en avait un. C'est la rue Saint-Vallier. Et crime qu'on a mangé de la marmiton. Si vous avez faim, je pense que vous pouvez coller de la marmiton justement sur l'autoroute 20 en direction ouest à Lévis. Évidemment, ça refoule là, jusqu'au chemin des îles. Et puis, il y a des ralentissements là, sur les deux ponts, évidemment. Puis c'est le même principe, Robert Clich, on est dépassé la rotonde. Donc, l'accès au pont sur la rive sud, des problématiques comme à peu près chaque matin là, depuis les constructions sur Guillaume Couture. Du côté de la Rive-Nord, bien honnêtement, ça va bien. Ralentissement sur Félix Leclerc, mais très minime là, entre Henri Bourassa et Laurentien. Même chose pour Laurentien, où on a un léger ralentissement à partir de Jean Talon, mais ça roule quand même mieux qu'à l'habitude. Toujours le ralentissement qu'on vit là, sur Henri IV, direction sud. Ça va jusqu'à Sainte-Geneviève, là, dans le coin de Val-Bélair. Pour le reste, bien, tout est beau pour le moment.
Et si vous voyez quoi que ce soit, vous le savez, un petit texto, si vous pouvez le faire en toute sécurité, au 88-971-1021. Courte pause, on revient tout de suite après. Deux choses vraiment le fun d'ici la fin de l'heure. Un, on va jaser politique avec notre chroniqueuse Jacinthe-Ève Harel, entre autres, revenir sur le rassemblement Québec solidaire à Saguenay en fin de semaine. Et je vous dis, oui, comment vous pouvez gagner votre paire de billets pour le show intime de Papa Roach avec Boulevard 101 lundi soir prochain. On s'arrête.